La maison de la poésie de Rennes.
Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ou vous préférez que je prenne le micro ?
Alors, nous sommes ici à la maison de la poésie.
Donc,
à
nous
Rennes.
Avons le plaisir de recevoir.
Je ne sais pas danser, mais je danse. Je ne sais pas chanter, mais je chante.
Cette expérience est unique dans l'univers.
Voir à chaque poème, je lis le mot.
Semblable, similaire.
Et puis on voit comment il se débrouille avec la page.
Que cette lecture nous laisse nus, dépouillés, et ainsi tout disposés à accueillir une autre, un autre en nous, que nous n'aurions pas osé imaginer.
C'est pas vivre, mais je vis.
Lecture. Sylvie Durbecq.
Et pour commencer, parce que nous sommes dans le cadre d'une péniche qui évoque le voyage, évidemment, de ce mot de voyage qui me paraît extrêmement, pour moi, important, je vais commencer par vous lire un texte de Jacques Brémond, qui est un texte que je ne connaissais pas de lui et que j'ai lu ici la première fois que je suis venue à la Maison de la Poésie, il y a quelques années. Et j'étais rentrée voir Jacques Josse et on était dans la bibliothèque et voilà. Et j'ai cherché, parce qu'il y a tellement de livres qu'on a envie de regarder et de lire, et je suis tombée sur ce texte que Jacques Brémond a écrit il y a un certain nombre d'années, en étant en résidence dans le Nord. Et ça m'avait beaucoup frappée, ce texte, à l'époque. Je l'avais recopié des petits morceaux. Et là, je voudrais vous en donner un extrait que je trouve très beau, d'abord parce qu'il évoque le Nord, qui pour nous est une région lointaine et brumeuse souvent, et qu'il y apparaît une couleur dans ce texte que j'aime beaucoup, qui est la couleur bleue. Me suis-je trompée de... Au hameau de Bleu Maison, j'acquis un tollé. Ses pains de mie moulé de 400 grammes, compact et doré, et la dénomination si simple, si légère, douce et chaude à la fois du lieu-dit, me fit trouver le chemin d'un autre rêve. De nouveaux départs vers d'autres couleurs d'azur et de blanc dur. Étrange, cette remarque, dans l'attention portée au marquage des lieux par le langage. Ici, je n'aurais pu approcher la langue, qui se perd de jour en jour, des bribes, traces éparses et rares, accrochées au café ou sur les places de marché le matin. Mais ce bleu, si rare pour ces terres, préservé dans la nomination des quelques maisons à l'approche de Saint-Omer, m'enchante. D'autres bleus naquirent alors, d'autres pages à écrire, d'autres yeux. Le voyage, par des routes incertaines, des lignes de fuite ou de joie à tracer. Ici, le canal, proche, doit donner le calme et la paix. Le pain chaud de la petite boulangère était un gage, et moi je vois ici un gage pour commencer à vous parler aussi du Bleu et de Marseille, qui est le premier livre que Jacques Brémond a publié de moi. Donc voilà, donc c'était une sorte de passage. Donc ce livre s'appelle Marseille, éclats et quartiers. C'est un voyage, encore une fois, dans cette ville qui est ma ville natale, à travers les quartiers de la ville aussi. Et donc c'est une déambulation, un voyage. Marseille, cinquième quartier, le port, la Joliette. À Marseille, tous les volets viennent de pays lointains, de Perse et du Siam. Ils renferment dans de grands appartements zébrés de lumière de douces odalisques, occupés à rêver. Près de la mer, les voyages se font sentir vifs sur la peau et dans le nez. Les rues du port ont toutes leurs maisons tendues vers le large. Il ne faut pas croire leurs persiennes refermées. Derrière, aux aguets, se tiennent des enfants prêts à quitter la ville pour goûter le sel sur leurs mains. Tant pis pour les alanguis qui s'alourdissent dans les divans. Il y a enfin de grands boulevards de commerce où les trahisons et les tractations se font dans la même langue depuis l'Antiquité. Les maisons sont des bâtiments de guerre. On y entre, on en sort, comme du ventre d'une géante. Parfois, on passe d'un navire à l'autre, des moments de sa vie à un autre que l'on supposait lointain, des années, et la porte repoussée dévoile un escalier qui conduit à la vieille charité. Tout est géant ici. C'est la mer la conquérante de cette immensité rendue à la ville. Je m'aventure en terre étrangère et de passé et de présent, dans la senteur de l'eau croupie et des cris. Beaucoup de caisses et de savoirs sont entreposés ici. Bois de toutes sortes, origines si diverses qu'on hésite à les citer. Tout se vide d'un temps et de gestes que l'on ne sait pas reproduire. Le mot, l'unique, qui vient comme un gobelet d'argent pour capturer le dé d'ivoire. Talisman, se dit ici, travail, à cause des becs et des grues, de l'ardeur des départs vers l'Orient, de la blancheur, présente ici plus qu'ailleurs dans la ville, et du vide. Je joue à la marelle dans la farine et m'entoure de poussière blanche. Cercle des fées de la Joliette, protège-moi, dit la petite à la grande. La petite, c'est la ville, et la grande, c'est moi. Sous le masque de ma tristesse, dit le poète arabe, se cache ta joie. C'est ainsi que je descendais vers la mer, quand mon âge autour de moi faisait sa chanson. Que répondre au poète arabe qui marche devant moi d'un bon pas? Silo en panne de blé, immense pan dressé à partir de la mer grise, où le vide répond à l'absence et où plus rien ne se vend. Mais lui a le don de s'aventurer debout, sur la mer, jusqu'en Orient. Moi, non. Pourtant je suis née au paradis, et y ai vécu le noir des rues avant l'espace libéré des campagnes. Tout me conduisait vers la mer après cette naissance. Dans le poème que j'écris depuis le commencement de Marseille, des animaux se déguisent en végétaux et des mots en animaux. Depuis le commencement du poème écrit sur ma peau de petit enfant bleu, quand j'avais un père et une mère, une ville, Marseille, autour de la taille comme un anneau de mariage, j'écrivais comme on rêve, comme on joue à la marelle, de l'enfer au paradis, sans faire de trêve. Entre les mots, il y a le silence que l'on fait taire à coups de cris quand on sait le faire. Dans le poème que j'écris depuis le commencement de Marseille, sur ma peau la lettre Z se promène sans queue ni tête dans mes mots, les moments de folie, les mots de tête aussi, et c'est la lettre que je préfère. Finale de tous les rêves, ensemble, de tous les livres, conclusion hésitante entre l'enfance et la mort. Z est une porte ouverte entre la mer et l'océan, les oiseaux dansent sur une île et Z s'y promènent nus. Je n'ai plus d'anneau autour de la taille, Marseille n'entoure plus mes os comme un anneau, mais la lettre Z résiste sur ma peau. Elle est le commencement du poème et la fin du commencement. Elle seule est Marseille et Orient, Asie et Finlande. Je chante la lettre et le mot absent dans la lettre. Je chante l'absence des mots et la présence des lettres. Dernier quartier de Marseille, les îles. Mon père m'emmena avec lui sur la mer un jour de tempête. Aucun bateau sauf le nôtre ne partait ce jour-là. Aucun sauf celui minuscule où nous embarquâmes bravement parce que mon père me l'avait promis. De ce que je vis et connu, le sel et le froid, le vivant de la mer, mon père fut l'homme fée. Je crois que ce fut sa façon de me faire naître avec lui. Ensemble et seul, dans le bateau, avec un capitaine que la tempête excitait, car aucun autre voyageur ne fut assez fou pour rejoindre If avec nous. La fille, le père et le capitaine, C'était un antique voyage où le père enfin prenait avec lui sa fille et le faisait publiquement au départ du vieux port à Marseille. C'était ce que nous attendions, l'un de l'autre, depuis le début. L'embarquement au matin nous arrachait à la terre et au temps. Tout le monde et ma mère nous vit quitter Marseille pour If, un jour de grand vent. Et personne n'osa arrêter le père et son enfant. Quelle grande voyageuse ce jour unique je fus, presque aussi aventurée que naviguer vers If, serrée contre son père et baignée d'eau, pour celle dont la main s'immobilise à la recherche de la surface et des mots pour ici clore ma ville comme l'œil d'un cyclone. La mer, pêche bleue, Madeleine, étouffement de la mer morte, étouffement en mangeant le rouge, en parlant le blanc, en écoutant la radio, poésie, aimée, étouffement de la langue maternelle, nationale, en lui. Puis, les morts vont à la danse, esquissent trois pas, et le paysage s'enfuit devant et rejoint l'enfance suisse, la sœur. Sur la table d'enfance, un fruit bleu, toile cirée. Non loin de là, mangent et boivent humains, non pas oiseaux, mais anges, chardonnerets, non humains, et petites souris traversent l'espace gris. Madeleine était ma sœur, et ensemble vivions, dans les hauts pays de Suisse, nous mangions, des nourritures bleues comme pêches en été. La mère est morte en avalant sa langue, rougie, et nous avons vu les morts en train de danser, eux, si lourds en leur vivant, les voilà allégés de tout ce qui a menacé le pas des danseurs. Étouffement en soi, de toute langue, de toute voix, de toute couleur, et l'esprit de l'air entre les eaux fait cliqueter la parole en la rendant nouvelle. Sur mon livre, ce nom, Madeleine, et cet autre, Aimé, termine ma lecture, achève ma journée. Le fils. Pêche bleue, Madeleine. Étouffement de l'été, la mère, morte. Étouffement en mangeant, en parlant, poésie. Étouffement de la voix, dans la gorge. Les morts vont au bal pour la première fois, esquissent prémices de petits pas glissés. La voix maternelle s'est effacée. Étouffement des paysages et des villages, étouffement des pas, des gorges et des voix dans la couleur. Rouge. En faisant danser le noir sur un thème d'enfance. La fille. Avançant, murmurant, marmonnant, en une langue inconnue, elle, abordant un continent aveugle, dans la maison incertaine de la voix, où il ne reste rien, résiste. Résiste à l'effacement du paysage, elle, dans l'indécision des nuages, avance. Thank you. Ce rouge qui brillait dans le torrent, Soutine. Sans en mourir, sans en parler, en se taisant très fort et en enfonçant la blancheur de sa mémoire dans le rouge. Il n'y aurait rien à raconter ensuite. Ce qui importait, c'était de pouvoir emporter plus loin la coulée rouge et luisante, glacée aussi, et rouge par-dessus tout, jusqu'à la maison. Où est-elle, la maison ? Dans le chaos des granites, parfois un mur se dresse, mais de si loin, rien de la maison ne s'aperçoit. Certains enfants ont une maison, et d'autres, bateaux de papier sur l'eau, l'ont perdue, en ont été chassés. Plus grand, on leur a ouvert la porte d'une remise, un atelier, un endroit où se tenir, calmant un peu le soir, la rage du jour et sa lumière. Entrailles, sang, flèches des enfants sortis en hurlant de l'école, leurs jambes, blanches ailes de papillon, et lui a arraché du rouge dans le torrent tout ce temps. Loin de toute neige, de toute boue, de la saleté pisseuse des villes, voilà que lui seul avait découvert l'invraisemblable trésor de la couleur, rouge. Ici, dans la roche et sous l'eau, immédiatement il l'avait voulu, toute pour l'emporter. Ce rouge brillait comme les lignes grises, vertes et blanches que faisait l'eau, en glissant sur les pierres depuis le haut jusqu'en bas. Là où il s'était accroupi, les pieds déchaussés et le pantalon retroussé. De toute cette matière fluide et colorée, s'emparer. Marchant de tout son poids sur les rochers, il savait qu'il était déjà en train de peindre ce que ne comprenaient pas ses hôtes, ni personne. Buvant, mangeant, marchant, toujours la peinture en lui, travailler, le travailler du dedans. Si cette activité secrète s'interrompait, un ennui terrible le terrassait, immanquablement suivi par une tristesse sans mots qui le privait du monde des couleurs. Pire, un désintérêt total pour les autres et lui-même le prenait, ne le lâchait plus, et là, à ses pieds, le rouge. De ce rouge, de ce vert, de ce bleu. Il se servirait pour opposer à l'ennui tellement de maisons et d'arbres que la peinture se ferait vivante. Mais le travail, ce bagne qu'il avait lui-même forgé, ne devait en aucun cas s'interrompre. Sinon, l'écœurement le reprendrait vite de se savoir vivant et misérable comme il l'était, si affreusement seul au milieu des autres. S'il réussissait à s'emparer de la couleur, alors il se précipiterait tout à l'heure dans la remise en se cognant au mobilier entassé et se remettrait à la tâche comme un forcené, parce qu'il aurait avec lui ce rouge qui brillait dans le torrent, ce rouge semblable à aucun autre. Il savait que c'était incompréhensible, cette fureur. Peindre, détruire, gratter, cet acharnement à traiter les tubes de peinture et les châssis entoilés comme des adversaires dont il fallait extirper la moelle et le sang, et lui aussi, était incompréhensible. Aux autres et à lui-même, déjà quand il parlait, personne n'entendait ce qu'il disait, et pour couronner le tout, il ne comprenait pas non plus ce que les autres tenter de lui faire comprendre. Des phrases, soupçonnait-il, où on lui demandait de s'arrêter, de peindre, de manger, surtout de boire, de crier, d'éructer. Mais lui, jamais, ne s'arrêterait, à aucun prix. Alors, Denis m'a fait le grand plaisir de traduire ce texte en anglais, donc on va en écouter quelques mots, donc le début.
Dennis Hirson.
Shining red in the torrent. Go to a meeting with redness. Reach it with all the necessary brutality. Refuse facile images, self-portraits, portraits of any sort. But go without reserve, crushing water underfoot, unyielding to the childlike pleasure of splashes against naked legs. Go as a painter. Roll up trouser legs, remove espadrilles, and dig your will into the torrent. Meet the red there, take it captive. Bury your madness in the icy water. Without dying of this, without speaking of it either, keeping absolutely quiet, driving the whiteness of your memory into the red matter. Later, not a single word to tell. Most important was being able to take further the red gleaming streak, icy too and red above all else. Take it home. Where is home? In the clatter of granite, sometimes a wall rises, but from so far away nothing of the house can be glimpsed. Some children have a home and others, paper boat on water, have lost it. Have been hounded from it. When they are older, the door to a shed is open for them, a workshop, a place to stay and at night soothe a while the rage of the day and its light. Entrails, blood, arrows of children leaving school screaming, their legs white wings of butterflies, and he tearing redness from the torrent all this time. Far from all snow, all mud, the piss-sodden towns, so it was that he alone had discovered the improbable treasure of the colour red, here in rock below water. Immediately he had wanted it all to take with him.
Oui ou non? J'ai écrit sur la porte déverrouillée du jardin des morts « Voi che entrate » et je me suis découragée très vite et fort car l'effort d'écrire dans une langue inconnue autre que la mienne, déjà étrangère parce que venue de mon père et de ma mère qui à leur tour l'avaient reçue de deux morts, chacun ce qui fait en réalité deux fois deux morts, est un travail d'Hercule. Or, je suis à ce jour une fille. Mon nom, prénom, la seule certitude, rime avec la vie. Mais certains, j'entends leur moquerie, objecteront avec toute leur rhétorique héritée. Un nom n'est pas nom, un prénom. Il faut être sérieux quand on se dit poète. Ma manière, si j'avais à dire, mais déjà je me répète, et sur la porte déverrouillée, aujourd'hui pendante, comme l'amour est si souvent, voike, vacante, mon doigt crayeux de co a écrit vite, entrate, aux amis ennemis, j'ouvre mon cœur, en toute hâte.
Et Denis l'a traduit aussi. On the unbolted gate to the garden of the dead, I wrote, Voice entrate, and was pulled short, swift and sharply as the strain of writing in an unknown tongue, rather than my own already foreign, since come down from my father and mother, each having received it from two among the dead, which indeed then makes twice times two of those I've said, is a Herculean task, while I to this day remain but a girl, whose name, forename, sole certainty, rhymes with the verb to be. Though some will object, I hear their mockery, chocked with a heritage of rhetoric. A name is no, not simply a forename. Don't be flippant if you call yourself a poet. My way, if I had any say, but already I've said it. And on the unbolted gate which swings loose today, as love does, being so often voike vacant, my cliff-white chalky fingers wrote hurriedly, entrate. To friends, enemies, in all haste, I open my heart.
Et pour finir, je vais vous lire quelques rêves écrits dans un endroit qui s'appelle Beau Séjour. et qui m'a accueillie et qui a accueilli un certain nombre de rêves. Donc ces textes figureront peut-être dans le texte global que je suis en train de d'écrire et qui, pour l'instant, va porter le titre de « Patrie portative pour un sans-patrie ». J'ai rêvé que je parlais parfaitement portugais, russe et finnois. J'ai rêvé que je venais de publier mon premier livre et découvrais que j'avais 20 ans. Mes enfants et moi, nous étonnions de ma jeunesse. J'ai rêvé que Bolaño et moi marchions sur la promenade de Blanes et qu'ensuite nous allions manger des gâteaux chez son ami, pâtissier. J'ai rêvé que tout le monde comprenait ce que voulait dire « patrie portative ». J'ai rêvé que mes aimatlos, mes sans-patrie, en se multipliant, propageaient une forme de joie spinoziste. J'ai rêvé que toutes les listes de livres et de courses à faire se retrouvaient dans le livre que Bernard Bretonnière était en train d'écrire. J'ai rêvé que les décombres de la menuiserie Guiton permettaient de construire des milliards de poèmes. J'ai rêvé de n'avoir plus honte de mes maladresses. J'ai rêvé d'Edith Azam. J'ai rêvé de ne plus me tromper de prénom quand je suis au téléphone avec un de mes fils. J'ai rêvé de ne plus avoir de trou de mémoire quand j'essaie de citer le titre d'un livre que j'ai aimé. J'ai rêvé de résister à la peur qui me prend chaque fois qu'on me demande ce que je suis en train de faire. J'ai rêvé de numéroter tous mes rêves comme Roberto Bolaño, mais je ne sais toujours pas faire une tilde sur le clavier de l'ordinateur. J'ai rêvé que mes amis me croiront enfin quand je leur expliquerai qu'enfant, j'ai volé pendant un très court instant dans une petite allée plantée de noisetiers à Marseille, un endroit appelé les Dames Réunies, où se pendit plus tard une vieille tante, Valérie, dont je me souviens comme d'une dame parfumée et raffinée. J'ai rêvé de marcher très longtemps dans une forêt, toute seule. J'ai rêvé de voir se matérialiser le temps. Quelle forme prendrait-il ? La forme d'un escargot, comme l'appartement de mon grand-père à Marseille. J'ai rêvé de manger en compagnie de Thomas Bernard, Sebald, Roberto Bolaño, Wisława Szymborska, Herta Müller, et de pouvoir leur parler. J'ai rêvé de savoir tenir en ordre le désordre et son désert, en échec, l'ennui. J'ai rêvé de devenir trapéziste dans le cirque où travaillait Arthur Rimbaud et de faire un numéro avec mon chien Vadim et le chat Smurout. J'ai rêvé de lire ma liste de rêves en public et qu'une jeune fille polonaise se mette à son tour à rêver en français. J'ai rêvé que l'arbre en face de ma fenêtre de beau séjour était mon père revenu de très loin pour m'assurer que tout allait bien. J'ai rêvé que Thérèse se multipliait jusqu'à ce que je ne sache plus qui elle était et que Jean-Claude était un menhir féminin. J'ai rêvé de devenir aussi légère qu'un oiseau qui rêve d'être un humain. J'ai rêvé d'entendre le pas de mon père sur le chemin de la maison de beau séjour. J'ai rêvé d'entendre dans ma voix sa langue paternelle. J'ai rêvé de partir avec Nathalie Gwen en Islande pour y chercher une vertèbre de baleine. J'ai rêvé d'être en mesure de demander à des hommes politiques ce qu'ils mettaient dans le mot « patrie ». J'ai rêvé que ma maison était une île entre Finlande, Bretagne et Portugal et où les trois langues et les trois pays se conjugueraient ensemble dans le mot « granit ». J'ai rêvé que je comprenais enfin ce que signifiait la patrie portative. J'ai rêvé que je marchais sur des lignes roses, bleues et blanches tracées à la craie et découvrais la pudeur de la couleur en sautant d'une ligne à l'autre, enfer et paradis de la marelle. J'ai rêvé que la nouvelle langue parlée dans la patrie portative était un mélange de portugais, de finnois et de russe avec un peu de syntaxe française. J'ai rêvé que je me demandais où était la fin de la table sur laquelle je marchais en rêvant. J'ai rêvé que rêver était une manière de marcher sur l'eau du canal Saint-Martin à Rennes sans avoir à faire montre d'orgueil ou de compétences sportives. J'ai rêvé que je trouvais une très petite maison de granit au Portugal et que la personne qui m'ouvrait la porte en m'invitant à entrer s'appelait Carla Philippe. Ensuite, ensemble, nous dessinions des ex-voto, elle pour les accidents de chemin de fer et moi pour les accidents de l'écriture. J'ai rêvé que ce petit univers de bons hommes était une réponse aux questions de tous les sans-patrie. J'ai rêvé que je savais répondre sans hésitation, sans passer la main dans mes cheveux pour trouver une contenance. J'ai rêvé que le ciel se dégageait sur Brest, que nous partions tous ensemble sur un bateau appelé Beau Séjour vers les îles d'Ouessant. J'ai rêvé que la patrie serait désormais portative ou ne serait pas. J'ai rêvé que je comprenais toutes sortes de langues, celles parlées sur le canal Saint-Martin, celles du cimetière du Nord, mais aussi les arbres, les oiseaux du jardin, birds and trees et la musique. J'ai rêvé que je pourrais rêver ainsi jusqu'à la nuit prochaine et ces fantômes demandeurs de rançon. J'ai rêvé que « Clouds in the sky » était un code secret pour dire « La guerre est finie !» J'ai rêvé que je parviendrais à imiter Roberto Bolaño au point que me serait décerné le titre envié de premier détective sauvage français. J'ai rêvé que tout commençait à peine.
Thank you.